Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech en ce mardi soir avec sur le plateau de Tech & Co, Tristan Nitto. Bonsoir Tristan.
Bonsoir.
Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Nous avons aussi Philippe Devost ce soir. Salut Philippe.
Bonsoir François.
Fondateur de Filéos et cofondateur de Wanadoo au début des années 2000.
Il y a 30 ans.
Il y a 30 ans. Eh ben.
2 mai 96.
Jean-Baptiste Nicolet est avec nous. Quel âge as-tu, JB?
Bientôt 30 ans.
Eh ben voilà.
Décembre 96.
Il est né en même temps que Wanadoo, quasiment. C'est fou, ça. Ça va, JB?
Ah
merci
ouais,
d'être
ça va
là.
Super, merci pour l'invitation.
JB, vous le connaissez peut-être, c'est JB de The E-Collection, un YouTuber qui a franchi la barre du million d'abonnés il y a quelques mois de cela. Voilà, tu traites de toute l'actualité tech. Évidemment, au début, c'était Apple, mais maintenant, tu t'intéresses à la mobilité automobile aussi, bien sûr. Et à l'actualité Google, parce que, évidemment, tu es là aussi pour nous raconter un petit peu ce qui va se passer concernant cette Google I.O. Gros rendez-vous, hein. Vous savez, dès qu'on arrive, mai-juin, deux gros rendez-vous. La Google I.O. qui présente en fait à tous les développeurs les nouveautés de Google dans le domaine de la cartographie, mais aussi de Gemini, parfois aussi du hardware.
Et des OS.
Et des OS aussi, avec Chrome, sans doute.
Et Android.
Et Android, forcément. Et puis un petit peu plus tard, en juin, c'est la WWDC d'Apple. On en parlera d'ailleurs, hein, puisque même si elle se déroule en juin, elle a été annoncée pour le 8 juin, en tout cas, la keynote. Et on commence à avoir quelques bribes d'informations concernant cette keynote, qui est très attendue parce que on attend forcément Apple au tournant concernant
l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle. Que vont-ils nous sortir de leur chapeau? Ce sera la question qu'on se posera tout à l'heure. Mais, pour débuter, donc, on va revenir sur cette victoire pour Sam Altman dans la guerre de l'intelligence artificielle. La décision est tombée, je le disais, hier soir. On l'a vécu en direct dans Tech & Co. Elon Musk a été débouté par la justice dans le cadre de son projet contre OpenAI. Et pour cause, c'est une question de calendrier. Il y a prescription. Léa Benaim nous expliquait ça ce matin dans Good Morning Business.
Et oui, c'est trop tard car cela fait plus de 5 ans qu'OpenAI a pris un virage commercial et Elon Musk a déposé sa plainte seulement en 2024, tout en connaissance de cause. La justice n'a donc finalement pas jugé le fond du dossier, donc on n'aura pas la réponse à cette fameuse question. Est-ce que les 38 millions de dollars donnés par Elon Musk en 2015 ont servi à enrichir OpenAI? À la sortie du tribunal, l'avocat de Sam Altman n'a pas mâché ses mots. Selon lui, ce verdict confirme, je cite, une tentative hypocrite de saboter un concurrent. De son côté, Elon Musk a dénoncé sur X une juge militante qui aurait créé un épouvantable précédent. Un tweet rapidement supprimé avant que son avocat annonce faire appel. L'enjeu était tout de même énorme. Elon Musk voulait faire annuler la transformation d'OpenAI vers un modèle lucratif, ce qui aurait pu compromettre sa possible entrée en bourse et sa capacité à lever des milliards de dollars. Mais avec cette décision, Sam Altman ressort donc renforcé. OpenAI peut poursuivre sa restructuration et accélérer sa croissance dans l'IA.
Alors voilà, c'était un procès attendu. L'issue était aussi très attendue. Ça n'a pas fait un pli. Finalement, en deux heures, les juges publics ont décidé en fait qu'il y avait prescription. Allez, emballé, c'est pesé. Alors, je crois que Elon Musk va faire appel, mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas. Rappelons quand même le contexte. Pourquoi Elon Musk en voulait à Sam Altman? Parce que Elon Musk était au début de l'histoire d'OpenAI. Tristan, peut-être que tu peux rappeler tout ça aussi, aussi bien que moi. Hein.
Oui, au départ, en fait, il disait, faut se méfier, l'IA, ça peut être dangereux, ça pourrait mal tourner, il faudrait un truc qui est ouvert, ouais, à but non lucratif.
Qui est ouvert comme Open.
Voilà, d'où le nom OpenAI, qui veut plus rien dire aujourd'hui, parce que c'est le plus fermé de tous.
C'est plutôt MoneyAI.
Ils avaient peur d'être face à Google, de laisser le terrain à Google. Et donc, il a filé 38 millions de dollars. Et puis voilà. Maintenant, je suis pas sûr que Sam Altman, il a pas trébuché ce coup-ci, mais enfin, il ressort pas grandi de l'affaire quand même. Ça a été l'occasion de discuter de pas mal de choses.
Ouais.
Ils ont soulevé un bout du voile et ce qu'on a vu, c'était pas terrible.
C'était pas terrible. Et puis, malgré tout, il y a une frustration, parce que l'affaire n'a pas été jugée sur le fond. Simplement, comme il y a prescription pour une histoire, une sombre histoire de date, on ne saura pas véritablement ce qu'il en ressort de cette histoire.
La prescription, c'est une manière très très polie pour la justice de ne pas avoir à juger.
Ouais, et de ne pas soulever le truc, le voile dont Tristan...
parce que j'ai entendu dire qu'il y a, en fait, une des partenaires, qui est la mère de 4 des enfants d'Elon Musk, travaillait en fait chez OpenAI et était plus ou moins pilotée par Elon Musk à distance pour avoir des infos après qu'il soit parti en claquant la porte. Elle lui demandait dans des textos est-ce que tu veux que je reste ou est-ce que c'est mieux que je parte, etc. Enfin. Donc déjà, ça, c'est pas terrible. Et puis, pour Musk, c'est pas terrible pour elle. Et c'est pas terrible non plus pour Altman, qui a été un peu... ça a permis de révéler un peu sa personnalité et sa tendance à raconter exactement ce que les gens ont envie ou besoin d'entendre et avoir une distance importante avec la vérité, on va dire. En tout cas, ça ne stoppe pas la prochaine introduction en bourse, et c'est ça qui fait qu'on peut dire que c'est une victoire pour Altman.
Ouais.
Mais vous pensez que c'est un procès fini et que c'est enterré, ou non, ça peut continuer parce que justement, comme ils n'ont pas vraiment
jugé le fond,
jugé le fond et juste la forme.
Mais le problème, c'est que est-ce qu'on peut revenir sur une prescription, ou est-ce que je ne sais pas comment ça se passe juridiquement là, parce que Elon Musk évidemment peut faire appel, mais pourquoi
faire ? Il a annoncé qu'il faisait appel.
Sert à quoi en fait ? C'est à partir du moment où il y a prescription, c'est ça que... Alors peut-être qu'il y a un angle différent d'attaque, je ne sais pas.
Si l'appel est suspensif, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que rien n'a été tranché sur le fond, et on est face à une organisation fondée pour le bien de l'humanité, qui est valorisée plus de 850 milliards de dollars, et on a demandé leur avis à personne, et notamment pas aux utilisateurs. Ça me semble être un sujet de fond qui méritera d'être tranché un jour.
Ouais.
Est-ce que ça va empêcher l'introduction en bourse d'OpenAI ? Sans doute pas. Il serait pas mal qu'elle se passe bien pour que celle de SpaceX puisse se passer dans de bonnes conditions aussi. Enfin, on est face à deux égos et deux personnalités surdimensionnées qui s'affrontent par médias interposés. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'encore une fois, la justice ne prend pas parti. Ils ont refermé la porte sans avoir même visité la maison.
Les conséquences d'un jugement plus sévère pour OpenAI auraient été catastrophiques, finalement.
Oui.
Ça aurait peut-être fait accélérer l'explosion de cette bulle d'IA qu'on évoque souvent dans Tech & Co. Non ?
Philippe, si t'étais juge, toi, tu t'aurais tapé dans le tas et t'aurais...
Juge de Vost.
J'en sais rien.
Je t'imagine avec ta robe.
Ta responsabilité. T'imagines, t'arrives, tu laisses le process dérouler. On démontre que effectivement il y a eu tromperie, que ce qui était à but non lucratif est finalement devenu une boîte avec une valo absolument hallucinante. Et du coup, tu plantes cette valo, enfin, tu plantes la boîte, tu plantes l'introduction en bourse, et là, en fait, t'es le type avec l'aiguille qui va percer la bulle de l'IA. Est-ce que t'as envie d'avoir ça sur ta conscience
non,
en tant que
non,
juge
mais si
ça
je...
peut faire tâche sur ton CV, tu vois.
Mais tout dépend de savoir ce que tu défends quand t'es juge. Est-ce que tu défends la justice ? Est-ce que tu défends ton parcours et ta prochaine nomination comme procureur ou je sais pas quoi ? Le sujet, me semble-t-il, c'est il y a le fait de juger sur le fond, de dire ce qui était une organisation à but non lucratif manifestement ne l'est plus, très manifestement. Et d'autre part, sur la question de la valo que tu évoquais, Tristan, la valorisation, c'est une opinion. Il se trouve que c'est l'opinion qu'avaient les derniers investisseurs qui sont rentrés lorsqu'OpenAI a élevé 122 milliards de dollars. Mais normalement, un investisseur bien informé, bien éclairé, met dans la balance de la valo les risques associés au procès ou enfin à ce qui est en cours. Donc chacun prend son risque.
Oui, mais qui se trompe ou pas, on est bien loin des quelques dizaines de millions refilés par Musk dans une optique de but non lucratif.
Oui, mais
là, on est qui se soit trompé ou pas, la valo est tellement stratosphérique qu'on sait bien que OpenAI ça vaut beaucoup d'argent.
Mais en fait, il y a deux questions. Il y a une question qui est-ce que les 38 millions apportés par Musk au tout début qui représentaient, enfin, qui sont pas une petite somme quand on démarre une affaire pareille, valent effectivement les 130 à 150 milliards de dollars que Musk réclamait. Est-ce que c'est un sujet d'argent? Ou est-ce que c'est un sujet qui va plus sur le fond, qui, encore une fois... Ouais.
Ou bien, est-ce que finalement, troisième possibilité, sur les deux que tu évoques, j'en rajoute une troisième, c'est, et finalement, est-ce que c'est pas l'occasion pour Musk, qui a une boîte qui fait de l'IA, qui est pas quand même géniale, enfin en tout cas qui est pas dans les deux premiers, de dire, je vais dézinguer un des deux
potentiel
premiers,
concurrent
et,
faire, pour,
et je vais remonter dans le dans oui, dans, alors, dans
après dans bon, après ça c'est mon dernier commentaire là-dessus, c'est on peut faire un pas. Il y a cette histoire de parallèle temporel qui est de dire oui, bah pourquoi est-ce qu'il s'est pas manifesté plus tôt? Il pensait avoir monté une boulangerie de quartier solidaire avec un copain et il s'aperçoit que c'est devenu une chaîne de boulangerie et il a pas râlé plus tôt. Il y a un parallèle intéressant. Ce genre de choses, ça se produit et ça fait pas nécessairement l'objet de procès. Je pense qu'il y a les égos d'Altman et de Musk qui sont en jeu. Mais il y a un truc dont il faut se souvenir, et notamment JB qui a beaucoup suivi Apple, je crois, au début. Souvenez-vous du sauvetage d'Apple par Microsoft. Quand Jobs enterre la hache de guerre, Microsoft met de tête à peu près 200 millions de dollars pour permettre à Apple de boucler l'année. Et donc prend une part du capital d'Apple.
Sans droit de vote, si je me souviens bien.
Sans droit de vote, voilà, oui. C'est, mais pour s'éviter probablement un antitrust. Hein.
Voilà, exactement. Et, voilà.
Quelques années plus tard, ils la revendent. Ils font une plus-value de. Ils font peut-être un fois deux. Mais Microsoft aurait pu râler en disant, mais en fait, si j'avais gardé l'injection de cash que j'ai faite dans Apple au moment du sauvetage, est-ce qu'elle vaudrait quand Apple a dépassé les 1 000 milliards, puis les 2 000 milliards, les 3 000 milliards, bon, voilà. Mais c'est du rétroviseur.
Bon, écoutez, visiblement, Elon Musk a fait appel. On verra ce que ça donne, cette histoire-là, mais c'est assez intéressant à suivre. On verra bien. Tiens. Petite actu qui vient de tomber aussi. Est-ce que vous connaissez Andrej Karpathy?
Oui.
Voilà, Andrej Karpathy, c'est quand même l'un des pontes de l'IA. Ce monsieur est un chercheur très respecté qui est passé par Tesla. C'est lui qui a développé, entre autres, eh bien tout ce qui est autopilote et conduite autonome chez Tesla. Donc, c'est pas rigolo, quoi, si vous voulez. Après, il est parti chez OpenAI. Il est reparti d'OpenAI, il est revenu et là, il vient d'annoncer qu'il quittait OpenAI pour Anthropic. Voilà, donc il va carrément chez des ennemis. Vous voyez, ça bouge quand même hein, dans ce milieu-là. Alors pourquoi ce on va dire cette pépite de l'IA, hein, cette grande figure de l'IA moderne quitte ChatGPT, on ne le sait pas, il ne le dit pas, mais ça vient de tomber. Je voulais qu'on évoque cette information parce que voilà, ça prouve encore une fois que ça bouge beaucoup. Hein, toutes ces boîtes, c'est des vases communicants. Tous les talents vont et viennent. On se rappelle évidemment de Mark Zuckerberg qui avait charmé à coups de centaines de millions de dollars les plus grandes pontes de l'IA pour qu'ils viennent travailler sur ces modèles à lui. Mais ça bouge aussi entre Anthropic et ChatGPT, et en tout cas OpenAI.
Anthropic est dans une position qui est géniale pour l'instant, parce qu'ils ne sont pas pris dans ces batailles d'égo surdimensionnées auxquelles on est en train d'assister. Ouais. La bataille d'égo entre Musk et OpenAI, elle confirme juste le fait que Grok est en train de perdre du terrain pour l'instant, et c'est quand même à tel point que Musk loue Colossus, son gigantesque data center à Anthropic pour plusieurs dizaines de milliards de dollars. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est ça. Et Anthropic, lui, est sur une ligne de crête, continue de se développer de manière extraordinaire en termes de revenus. N'est limité que par l'accès aux ressources de production de puissance, hein, parce que l'IA, c'est de la conversion d'électricité en token, ni plus ni moins. Ils ont réussi pour l'instant à pas se faire trop tordre le bras par le gouvernement américain, tout en étant les défenseurs des grandes entreprises américaines avec Mythos. Enfin, ils sont exactement au bon endroit. Et donc aller récupérer un Karpathy, c'est juste en train de valider une thèse qui est que il y a ceux qui bossent. Et ceux qui s'engueulent, et ceux qui parfois courent trop le lièvre à la fois, d'où le grand resserrement, l'alerte rouge interne d'OpenAI fin d'année dernière pour resserrer les rangs, parce qu'Anthropic trace son sillon. C'est impressionnant.
Bon, écoutez, ben voilà, c'est le mercato de l'IA n'est pas prêt de s'arrêter, hein, JB. Ça bouge beaucoup, en tout cas. Il est 19h46. Je vous propose maintenant d'aller, de rester dans la Silicon Valley. On s'arrête à quelques dizaines de kilomètres de San Francisco pour faire un point sur la Google I/O. JB, peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est cette Google I/O qui existe depuis pas mal d'années,
ouais.
Qui est un rendez-vous qui prend de l'ampleur d'année en année parce que tout le gratin de Google monte sur scène pour en fait charmer les développeurs et leur montrer surtout ce à quoi va ressembler Google dans les mois et les années qui viennent.
C'est ça, la Google I/O, c'est l'événement des développeurs fait par Google pour les développeurs, mais pas que, parce que du coup, ils présentent tous les OS qui seront au final utilisés par les consommateurs. Donc, ils présentent toutes leurs nouveautés, tout ce qu'ils ont sous le coude dans leur petit sac pour dire, ben voilà, on a ça comme outil, on a ça à vous proposer. Voilà ce qui sortira pendant toute l'année. Et ça a commencé même la semaine dernière avec un premier jet que Google, oui, a pu donner sur les nouveautés qui arriveront sur Google Maps, qui va pouvoir changer, qui va avoir une cartographie en 3D, qui va zoomer, dézoomer, selon si on s'approche d'un pont pour mieux voir la sortie. Enfin bref, ça va très très loin. Les versions d'Android 17 qui vont être annoncées également. Tout un tas de nouveautés, bien entendu, liées à Gemini, avec de l'IA, parce que c'est un peu le mot, enfin les deux lettres depuis quelques années, c'est IA, IA, IA à tout prix. Et aujourd'hui, tout fonctionne chez Google avec du Gemini derrière. Et là, ils ont annoncé depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure, 45 minutes, beaucoup, beaucoup d'annonces, ouais, de nouveautés justement liées à Gemini qui vont être disponibles dans les prochaines semaines ou les prochains mois. D'abord aux États-Unis, comme souvent, et ensuite, ça arrivera peut-être chez nous.
Et ça arrivera donc sur Android.
Sur Android.
Et puis après sur Chrome, donc sur Chrome. Tous les navigateurs Chrome.
Exactement.
Ce qui fait qu'on l'aura aussi sur PC, sur Mac, etc. etc.
Ouais. Et même sur des PC qu'ils ont sortis la semaine, oui, dernière, ils ont annoncé des ordinateurs Google qui s'appellent les Book. J'ai plus le nom en tête. Enfin, les
Google Book, je crois, non ?
Ouais, quelque chose comme ça.
Mais ça tourne sous quoi ? C'est quoi l'OS là ? C'est du Chrome ? Chrome OS ? Ou c'est un OS particulier ? Je crois que c'est un Android qui est boosté boosté aux hormones.
Ouais. J'ai plus l'info en tête, mais
faut aluminium.
Mais je crois que c'est sur du Windows de base, non ?
On va regarder. On va regarder tout ça.
Ça rassure.
Parmi toutes les infos qui ont été annoncées, la dernière ligne qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a beaucoup parlé d'OpenClaw il y a quelques temps de cela. Ce truc génial qui permet de prendre la main sur votre PC et de faire toutes les tâches ingrates qu'on n'a pas envie de faire sur son PC. Eh bien, Google lance sa réponse à OpenClaw qui s'appelle Gemini Spark et qui est un agent IA qui sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui va pouvoir faire les actions à la place de son utilisateur. Ce qui est génial, c'est que là, rien n'est installé sur l'ordi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC dédié à ça, puisque tout est dans le cloud. Voilà. Et donc, c'est quand même une petite révolution. C'est-à-dire que ça va tourner sur une machine virtuelle qui sera dans le cloud, qui sera fournie par Google. Donc, on n'aura plus besoin d'un PC spécifique pour avoir cet agent IA qui tournera en fait sur votre PC. C'est intéressant. Donc, à voir aussi comment ça va marcher, tout ça. Autre info très intéressante, vous savez qu'on est tous victimes aujourd'hui des fake news et des fausses images IA qui sont tellement réalistes parfois qu'on n'arrive plus à savoir si c'est une image réaliste ou générée par l'IA. Eh bien, Google a une réponse là-dessus. Ils sortent un truc qui s'appelle SynthID et qui arrivera sur le moteur de recherche de Google et qui, en fait, pourra authentifier si une image est générée par l'IA ou pas. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il faudrait que ça arrive sur les réseaux sociaux parce que si c'est que sur Google, ça va être un peu limite quand même. Mais on voit que malgré tout, il y a cette prise de conscience.
Pour le Google Book, l'ordinateur, c'est, oui, bien sous Chrome OS.
C'est voilà. Chrome OS, voilà. C'est qui marche très très bien aux US et pas très bien en France d'ailleurs, hein, Chrome OS. Hein, c'est un truc qui passe
beaucoup
un
moins
peu,
populaire ici en France.
C'est vrai. Parmi tout ça, je crois que tu as une petite annonce à nous faire. JB, il est 19h50. Oui. Google annonce aussi partenariat avec Samsung.
Avec Samsung, des lunettes connectées. On sait qu'aujourd'hui, c'est Meta qui est vraiment le chef en la matière avec son partenariat avec Ray-Ban et Oakley. Depuis quelques années, ils proposent leur version et leur vision de lunettes connectées justement pour prendre des photos avec de l'IA embarqué, mais c'est derrière Meta qui gère tout ça. Et bien là, Google va s'allier à Samsung, non pas pour refaire un peu des Google Glass, mais pour refaire vraiment ce qui marche au quotidien, c'est-à-dire les Meta Ray-Ban. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas avec Ray-Ban, puisque c'est déjà pris par Meta,
oui,
mais ce sera avec deux autres lunettiers, Gentle Monster, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.
Ils sont moins connus que...
Ils sont beaucoup moins connus.
Enfin, mais... en tout cas, En Europe, peut-être en Europe, qu'aux États-Unis, il y a une certaine popularité.
Warby Parker.
D'accord.
Je ne sais pas si vous connaissiez.
Non.
Non.
Voilà, c'est deux lunettiers qui, l'un est beaucoup plus axé mode, et l'autre beaucoup plus axé lunettes de vue. Donc des lunettes qui sortiront à l'automne, okay, avec le hardware de Samsung, avec l'écosystème Galaxy, l'IA de Google, donc Gemini intégré.
Et c'est Android XR.
C'est Android XR qui est derrière tout ça. Alors, il n'y a pas d'écran sur les verres, il n'y a rien de tout ça.
Ah, il n'y a pas d'écran sur les verres.
Juste
donc
vraiment un comparo de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur les Meta Ray-Ban, mais pas les Meta Display.
D'accord.
Ce sont celles avec le petit écran sur le verre.
Donc, micro, caméra.
Micro, caméra, haut-parleur, IA intégré, autonomie, ça se recharge dans le boîtier. Exactement comme ce que Meta peut faire aujourd'hui.
Sauf que quand tu poseras des questions à l'IA, ça sera ce celle sera de Gemini.
Gemini qui sera derrière.
Qui sera, qui répondra, qui est un petit peu plus performante que celle de Meta quand même.
Oui. Hein,
pour les avoir testé, c'est vrai que.
Sachant que Meta, à côté, il y a une semaine, a annoncé déjà les dates de sa Meta Connect qui aura lieu fin septembre 2026.
Oui, où là on peut.
Où il devrait annoncer de des nouvelles aussi. Lunettes avec une nouvelle intelligence artificielle derrière. Bref, je pense que c'est vraiment l'année des lunettes connectées. Il y en a partout. Tous les constructeurs s'y mettent et je pense que ça va être bien pour justement. Ben avoir un peu plus de concurrence et relancer un peu ce marché et avoir des nouveautés.
Messieurs, c'est un signe aussi que ça commence à prendre la racine des lunettes connectées, parce que c'est vrai que Meta ne faisait pas cavalier seul, mais disons que c'était, on va dire, la seule boîte sérieuse qui lançait des lunettes connectées. Là, on voit que bon, maintenant, toute l'industrie chinoise s'y met, Google s'y met avec Samsung, ça commence à devenir sérieux, j'ai l'impression.
Et puis Apple attendra probablement que le sujet soit totalement validé, qu'ils aient complètement maîtrisé les sujets les questions d'autonomie, etc., pour sortir les siennes. Pour moi, le cas d'usage qui est le cas d'usage ou le défi technologique qui est le plus délicat, c'est que lorsque la lunette connectée commencera à afficher des informations en surimpression, ce qui était le projet initial de Google Glass d'ailleurs.
C'est-à-dire que tu
c'est-à-dire que tu vois dans ton champ de vision des informations supplémentaires. Ouais. Et pour moi, le défi colossal, ça va être de combiner ça avec des verres de vue. C'est-à-dire comment industrialiser la production de verres adaptés à la vue d'une personne, tout en insérant dedans la couche.
Ouais.
La couche d'écran pour faire mettre l'affichage en surimpression. Et ça, à mon avis, c'est une prouesse. On voit déjà, je pense, qu'une des raisons de l'échec de l'Apple Vision.
Il y a pas mal de technologies où, en fait, l'image est projetée. En fait, il y a un mini projecteur.
Ouais.
Le verre, en fait, en lui-même n'est pas. Alors, il a été conçu pour bien refléter ce qu'on projette, mais c'est pas un verre qui intègre de l'électronique, finalement, tu vois.
Donc, absolument. Il te reste un paquet de réglages pour avoir bonnes distances focales.
Bien sûr,
d'ailleurs, c'est moi ce que j'avais découvert dans les premiers lancements du Vision Pro d'Apple, c'est que pour les personnes qui avaient besoin de correction, il y avait tout un partenariat avec Zeiss pour ajouter des petits modules qui permettaient d'ajuster la distance. Donc pour moi, ça, c'est le défi. Après, les cas d'usage, à mon avis, oui, ils vont se démultiplier une fois qu'on aura rajouté de l'information visuelle à l'information sonore.
Mais là, moi, je sais que j'avais ramené les Meta Display des États-Unis, que j'ai toujours, c'est avec le petit écran, que j'utilise de temps en temps. Mais c'est très limité quand même dans l'usage parce que c'est vraiment propre à Meta, donc on n'a que l'écosystème de Meta avec WhatsApp, Instagram et Messenger de Facebook.
Et parce que c'est très fermé comme système.
Mais on peut mettre ses lunettes à sa vue. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit espace de plus ou moins selon le problème de vue qu'on a pour avoir la disponibilité de son verre, de le mettre à sa vue.
D'accord.
C'est possible aujourd'hui de mettre ces fameuses Meta Display à sa vue, mais pas si vous ne voyez rien. Enfin voilà, c'est vraiment très limité sur la
possibilité. Oui, ça ne corrige pas tous les problèmes de vue.
Exactement.
En fait. Si on est trop astigmate ou trop myope, ça ne marche pas.
C'est ça. Mais c'est déjà possible aujourd'hui, donc je pense qu'avec la technologie qui va s'améliorer, ce sera beaucoup plus simple demain.
Tristan ?
Moi, ce qui m'interroge, c'est l'acceptabilité sociale de ces lunettes. C'est-à-dire que moi je porte des lunettes, donc et j'ai souvent des écouteurs, donc je me dis des lunettes qui font écouteurs, etc. Ça peut être sympa pour faire des visios ou genre de trucs. Mais alors le fait qu'il y a une caméra et que je filme des gens où que j'aille avec mes lunettes. Je pense que il y a un moment on va me faire une remarque un peu désagréable en me disant t'es gentil mais toi t'es en train de filmer tout le monde ici et c'est pas et peut-être même d'enregistrer et c'est pas non mais c'est pas clair. Quelque chose qu'on accepte ici parce non, que on veut pouvoir parler librement, on veut pouvoir se rencontrer sans être enregistré, sans qu'il y ait des preuves qu'on s'est rencontré, etc.
Ouais. Et donc il faudra avoir sa deuxième paire de lunettes déconnectées. Parce que pour certaines discussions confidentielles, il faudra enlever ses lunettes, les mettre dans la boîte de charge, remettre ses lunettes
normales,
ses lunettes de base, pour pouvoir avoir une discussion confidentielle.
C'est intéressant ce que tu dis. Tu parles de confidentialité, mais finalement, c'est jusqu'où va la confidentialité, tu vois? Je suis en train de déjeuner avec Tristan. Il pourrait être gêné, par exemple, si j'ai des lunettes avec des caméras, parce que même s'il y a rien de très secret de ce qu'on peut se raconter, c'est quand même assez gênant finalement. Pourquoi enregistrer tout le temps des choses, quoi? Tu vois, c'est
et avec l'IA, ça va être un cas d'usage du genre ah mais rappelle-moi cette conversation qu'on a eue au resto. Alors allez, tu lui poses la question et te dit ah bah vous avez déjeuné au resto tel jour et vous avez abordé tous ces sujets. Ah oui, donc en fait, tu vois, ça va proposer d'enregistrer, surtout avec Google, le cloud, l'IA, la synthèse, etc.
Une fronde quand même de
à un moment, tu vois, c'est comme la génération d'images par l'IA. Je trouve ça cool jusqu'au moment où tu vois les fake news qui vont avec, et là tu dis ah ouais, non, là on commence à avoir, il y a un deuxième effet qui se coule. Sur une techno qui était rigolote au départ et qui met mal à l'aise avec
y avoir un sacré sujet de cybersécurité.
Voilà. Ben bien sûr,
sacré sujet de cybersécurité parce que la prise en main à distance à l'insu de ton plein gré de tes lunettes pour pouvoir avoir accès à des scènes
Déjà avoir ton mot de passe sur un post-it c'était stupide, mais là quand t'auras des lunettes connectées ça peut être dramatique.
Oui, t'as raison sur notamment toutes les passphrases qu'on note sur un morceau de papier et qu'on veut révéler. Il faudra enlever ces lunettes très très souvent.
Après c'est vrai qu'aujourd'hui lorsque par exemple les Ray-Ban Meta filment, il y a une petite lumière qui s'allume pour montrer justement à la personne que vous êtes en train de regarder qu'elle est filmée, mais le souci c'est qu'il y a des hackers qui très facilement pirate ce truc-là et enlève la petite lumière en fait. C'est ça.
Il y a certaines personnes qui captent pas qu'il y a une lumière qui s'allume.
Oui,
parce que ça reste assez fin.
Oui, c'est assez discret.
C'est léger,
finalement.
Ouais.
Et quand on est en plein jour, on voit rien.
Et tu peux mettre un autocollant sur la LED et personne ne verra que t'as.
Oui, c'est clair. Tu peux mettre aussi un autocollant.
C'est allumé, quoi.
Ouais, c'est clair. Il est quasiment 20h. On va suivre quand même encore la Google I/O parce que c'est pas terminé. Je crois que ça dure 2h. Hein.
Oui, ça dure très longtemps et je crois qu'il y a encore beaucoup d'annonces.
Voilà, ça commence à 19h, donc il nous reste encore 1h. Mais on va malgré tout avancer sur d'autres sujets. On va s'intéresser notamment à la WWC d'Apple. Puis je sais pas si vous avez suivi ce concours qui, moi, m'a amusé tout le week-end. C'est ce concours entre les robots et les humains qui triaient des colis. Je sais pas si vous avez suivi sur Insta, sur mon fil Insta, j'avais des lives de robots qui ne faisaient que trier des colis et j'étais fasciné par ce truc-là en fait. C'est dingue, presque hypnotisé. On va tout vous expliquer pourquoi. Et vous restez là, Tech & Co, la quotidienne avec JB The E-Collection, Tristan Nito et Philippe Devost. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.